RMC Sport et Nike présentent le podcast des regards d'aujourd'hui sur le foot de demain.
J'ai une image qui me vient comme ça, c'est les scènes de liesse sur les Champs-Élysées après la victoire en 2018.
Un joueur de street foot qui fait des dribbles, c'est aussi pour asseoir son niveau, dire je suis meilleur que toi. Et le street foot, c'est ça aussi, c'est beaucoup du chambrage, qui est meilleur que qui. Et t'as besoin de le prouver à travers des gestes techniques.
2018, c'était un peu plus la Coupe du Monde de notre génération.
Le football, c'est l'école de la vie, ça apprend plein de valeurs. Quand t'es sur le terrain, t'oublies tout pendant une heure et demie, pendant deux heures.
Bienvenue dans votre podcast avec RMC et avec Nike. Bienvenue à la House of Innovation où nous sommes à Paris sur les Champs-Élysées pour ce premier épisode qui aura pour thématique le foot et la jeunesse, l'impact du foot dans les villes. On est très très bien ici à la House of Innovation avec un homme qui ne serait pas le Cristiano Ronaldo d'IPAF s'il n'avait pas joué avec des Tiempo il y a quelques années. Kevin Diaz, salut Kevin.
Salut à tous, salut Nico, salut à tous. Merci à la House of Innovation de nous accueillir. Par contre, moi, ce n'était pas les Tiempo, c'était plus les Mercurial quand même.
Bah, t'aurais dû jouer en Tiempo alors, peut-être que t'aurais fait une carrière encore plus belle,
ouais,
Kevin.
Pas sûr. Pas
On
sûr.
Est bien là, non?
On est très très bien.
Magnifique. Magnifique cette House of Innovation de Nike à Paris. Et si on est bien, c'est aussi parce qu'on est bien accompagné, mon kéké. On est avec Jess Adang, réalisateur de Ballon sur Bitume, Tour du Monde, documentaire sur la culture street football. Salut Jess, merci d'être avec nous.
Salut.
T'es bien là aussi?
Très très bien, bonne compagnie.
Eh bien, bienvenue, merci d'être avec nous. Corentin Béchu, responsable territorial chez Sport dans la Ville. Alors, association qui accompagne les jeunes pour participer à leur insertion sociale et professionnelle par le sport. C'est ça?
C'est tout à fait ça. Salut à tous.
Salut Corentin, merci d'être avec nous toi aussi. Et puis, Louis Thuyer, responsable de l'offre Kids et de la PSG Academy Urban Soccer est avec nous. Alors, tu as aussi été éducateur, entraîneur et futur DTN de la PSG Academy. Bravo monsieur.
Bonjour Nicolas, merci.
Merci à vous d'être là. Alors juste en guise d'intro, hein, en un mot, si je vous dis football et jeunesse, l'impact du foot dans les villes, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme ça, Kevin? Si je te dis ce terme très générique finalement, à quoi tu penses?
Bah écoute, moi pour moi c'est le foot dans la ville, le sport tout simplement, c'est les enfants qui sortent à 4h30 de l'école avec 4 cartables, qui font 2 buts et qui commencent à jouer au foot, qui jouent au basket, c'est ça, c'est pour moi en tout cas c'est ce que ça représente. Ça représente vraiment cette capacité à pouvoir jouer partout, tout le temps, peu importe la météo. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai connu. Et je pense que si j'ai fait une petite carrière dans le foot, c'est aussi parce que dès que l'école finissait, dès la récréation, dès 16h30, toutes les vacances.
T'as grandi où, toi, d'ailleurs?
Moi, j'ai grandi dans le 94, donc à Saint-Maur-des-Fossés. Et c'est vrai que c'est vrai que tu pouvais mettre quelques ballons dans la Marne. Mais pour le reste, dès qu'on avait un petit terrain, un petit coin de pelouse, un petit coin de béton, un garage, ça faisait un but et c'était parti quoi.
Corentin, si je te dis foot jeunesse, impact du foot dans les villes, tu penses à quoi?
Moi j'ai une image qui me vient comme ça, c'est les scènes de liesse sur les Champs-Élysées après la victoire en 2018. Moi je suis né en 93, donc en 98 à la première j'étais encore un peu jeune, j'avais 5 ans, j'en ai des souvenirs très vagues, des souvenirs des images à la télé après. C'est vrai que là 2018 c'était un peu plus la Coupe du Monde de notre génération et d'avoir vécu moi-même ces scènes super, super fortes en émotion. Sur les champs après la victoire, moi c'est l'image que je garde quand tu me parles de football, de ville et de jeunesse.
Même question Jess.
Moi j'ai l'impression que c'est un bon baromètre de la société, ou en tout cas de la ville. Quand tu me parles de foot, de jeunesse, moi je pense à ça.
Louis?
Moi un peu comme Kevin, pareil, ça me rappelle ma jeunesse. On faisait des foot partout, le foot il est omniprésent partout dans la ville et les fresques de Mbappé, de Benzema, de Zidane sur les murs des immeubles, le foot il est partout.
C'est le temps où on avait des cheveux ça Louis.
C'est un bon vieux temps.
Corentin, Sport dans la Ville pour qui tu bosses œuvre pour l'insertion des jeunes à travers le sport. Comment le foot aide à l'éducation, l'insertion de ces jeunes justement?
Tout à fait, alors Sport dans la Ville c'est une asso qui a bientôt 25 ans aujourd'hui. Le modèle de développement de notre association, ça consiste à construire ou à rénover des terrains sport de proximité. Donc vraiment dans les quartiers prioritaires politiques de la ville et exclusivement dans ces quartiers, c'est des terrains qui sont construits en pied d'immeuble que derrière on vient animer avec des séances hebdomadaires qui sont gratuites à destination des jeunes du quartier et qui sont encadrés par des éducateurs diplômés tous les mercredis, tous les samedis. Mais nous, on n'est pas un club, donc il n'y a pas d'objectif de compétition, c'est vraiment du sport pour tous. Et c'est le sport comme un moyen de transmettre un certain certain nombre de valeurs et de savoir-être qui derrière seront retrouvées soit à l'école, soit dans le secteur professionnel une fois que les jeunes en seront là. Donc l'idée, c'est vraiment de se servir du sport et du foot en particulier comme un vecteur pour transmettre aux jeunes qu'on a sur les séances autant de savoir-être qui seront attendus d'eux plus tard dans la suite de leur carrière.
Alors je sais que tu as bossé, Kevin. Il y a un truc qui t'intéresse toi dans le sport de la ville, c'est qu'ils ont une double fonction finalement.
Exactement, et je sais que Nike y participe aussi avec ses actions, c'est-à-dire d'essayer en tout cas de se focaliser par exemple sur les 6-16 ans pour justement que cette population, peu importe le quartier, peu importe les origines sociales, ait accès au sport et accès au football. Et donc voilà, cette politique de sport pour tous, aujourd'hui je pense qu'avec les JO 2024 qui arrivent, elle est ultra importante pour qu'en France on puisse faire du sport partout, tout le temps.
Alors Jess, il y a aussi une vraie problématique en ce qui concerne l'accessibilité des jeunes aux structures de foot aujourd'hui dans les villes. C'est une thématique qui est pas mal évoquée également dans tes documentaires.
On se rend compte que les terrains en extérieur sont délaissés au profit justement de structures un peu plus professionnelles comme les Urban, les Five, etc. Et moi j'ai l'impression en vrai qu'on perd un peu l'âme d'un quartier en fait en délaissant ces zones. Pour moi, ces zones-là, c'est vraiment des endroits où tu as plusieurs générations qui se croisent, qui peuvent communiquer, qui peuvent échanger. C'est vraiment le truc qui me marque quand je pense au terrain en extérieur.
Alors Louis, il a évoqué les Urban, Jess, il y a quelques instants. Est-ce que finalement, tu as l'impression qu'il y a une forme de concurrence entre ce que propose Urban Soccer, par exemple, et les City Stades qu'on peut retrouver au pied des immeubles?
Moi, je suis pas sûr qu'il y ait une forme de concurrence. Après, je suppose que dans les cities, dans les quartiers, ça continue de jouer. C'est toujours le cœur du quartier, c'est toujours le city et c'est toujours le terrain en bas. Je pense pas qu'on rentre en concurrence avec ça.
Il y a aussi une autre chose qui est très importante au niveau de l'accessibilité, qui est évoquée notamment dans Ballon sur Bitume. Bah, c'est le fait que ces city stades existent parce qu'il y a des gamins qui ne peuvent pas se payer de licence pour jouer en club également.
C'est ça. En réalité, on remarque que la pratique du sport et du foot en particulier, moi c'est le sport qui m'intéresse le plus quand je travaille sur des documentaires, on se rend compte que je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer.
Tu veux dire que c'est difficile pour eux financièrement de pouvoir suivre ou...
C'est ça. En gros, il y a des priorités. Il y a des parents qui peuvent pas se payer, qui peuvent pas payer à leur enfant des licences. Généralement, en plus, c'est des familles de plus d'un enfant. Donc voilà. Et aujourd'hui, il y a aussi la professionnalisation, on va dire, de la pratique du sport. C'est-à-dire que on va dans des urbanes, etc. On peut avoir sa petite vidéo du geste technique, etc. qu'on va poster sur les réseaux sociaux. Tout ça, on ne l'avait pas sur les terrains de foot en extérieur. Et du coup, c'est vrai que je ne veux pas dire que... Et tu as raison, hein, c'est pas une
concurrence.
C'est pas une concurrence. C'est juste que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes, ils délaissent ces lieux-là. Parce que des fois, il fait trop froid. Tu n'as pas envie de te déchirer la peau. Enfin, voilà, c'est toute une série d'éléments qui font que les terrains en extérieur sont délaissés.
De toute façon, quand tu vois comment évolue la société, que ce soit avec, et on en parlera plus tard dans les podcasts, mais que ce soit avec les jeux vidéo, avec d'autres formes de pratiques qui se développent, forcément, le foot de rue, entre l'urbanisation, en tout cas à Paris, qui est grandissante, le prix au mètre carré, le prix de l'immobilier, tout ça, ça contribue au fait qu'il y ait de moins en moins d'espace pour qu'on joue. Moi, le terrain vague à Villiers-sur-Marne, où je jouais dans le 94 quand j'avais entre 6 et 10 ans, aujourd'hui, tu as 10 barres d'immeubles toutes neuves et un centre commercial. Donc en fait, forcément, déjà, les enfants qui grandissent dans cette cité-là ou dans ce quartier-là, ils ont moins d'espace pour jouer, c'est factuel. Ensuite, il y a le vecteur social qui fait que quand même, tu as quand même envie de jouer au foot, parce que peu importe les problèmes que tu as à la maison, que tu as à l'école, que tu as en famille, même en tant qu'adulte, quand tu es sur le terrain, tu oublies tout pendant une heure et demie, pendant deux heures. Et ça, c'est pour ça que peu importe, ce besoin de faire du sport, en tout cas nous pour notre génération, il est vital. Il faut aussi qu'elle le soit pour les plus jeunes générations, même si ça l'est au fond. Mais nous, en tant qu'adultes, je pense qu'il faut qu'on mette comme vous faites tous. Et donc bravo, parce qu'il faut arriver à stimuler vraiment cette envie et cette pratique du football, peu importe la forme, en courant, en marchant, en salle, dehors, sur béton, sur herbe ou sur synthétique, parce que nos jeunes, ils ont besoin de faire du sport, ils ont besoin de s'extérioriser, et parce que sinon on va créer des cocottes minutes et c'est pas le but.
Corentin, je te voyais dire oui de la tête quand Kevin évoquait cette cette problématique-là, à savoir, c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, il y a le problème de l'accessibilité et de l'existence des terrains. C'est aussi lié à l'inflation, le prix de l'immobilier, etc. Est-ce que toi, qui bosses directement avec les communautés, avec les élus, tu dirais qu'il y a une vraie volonté de leur part d'investir dans le football, pour le football ?
Pour moi, cette volonté politique, elle existe à des moments assez ponctuels. Elle a existé. Elle existe notamment quand la France accueille des grandes compétitions sportives internationales. Elle a existé en 1998, où de l'argent public avait été débloqué. C'est encore le cas aujourd'hui avec les Jeux Olympiques et Paralympiques qu'on va accueillir ici à Paris en 2024. Il existe à l'heure actuelle une volonté politique d'investir dans la construction d'équipements sportifs. Mais ce qui est super important une fois que cet équipement est construit, et c'est notamment ce que Jess y disait, c'est qu'il faut l'entretenir derrière. Il faut aussi pouvoir mettre le budget pour que le terrain ne se dégrade pas, pour qu'au bout de 3 ans, comme c'est des terrains qui sont super utilisés, ils sont au pied des immeubles, ils sont en libre accès, ils sont super utilisés. Ces terrains, si tu ne les entretiens pas, au bout de 3 ans, la qualité, elle est catastrophique et ça ne donne plus envie de venir jouer. L'équipement, il est plus de suffisamment bonne qualité pour qu'on prenne plaisir à venir jouer dessus. Et il y a une deuxième problématique que Kevin mentionnait également, qui est celle du foncier aujourd'hui, surtout à Paris et ici en Ile-de-France. On est dans une zone géographique extrêmement bâtie, extrêmement dense, où le coût du mètre carré est très très élevé. Donc aujourd'hui, construire de nouveaux équipements sportifs, c'est pas si facile que ça, parce que le foncier, l'espace, n'existe pas nécessairement.
Louis, Urban Soccer s'est pas mal développé ces dernières années, principalement dans les grandes villes. Hein. Est-ce que tu dirais que c'est une réponse à un manque d'infrastructures de foot dans ces mêmes villes, justement, face à cette fameuse problématique du foncier et de l'immobilier ?
Bah, clairement, c'est un manque d'infrastructures et c'est le point de départ d'Urban Soccer. C'est-à-dire que si avant, il y a 15 ans et même aujourd'hui, si tu veux faire un foot avec tes 10 potes, bah, si tu vas au stade, bah, y a déjà les assos, il y a déjà les clubs, il y a déjà les écoles. Et si tu vas au City, bah forcément, il est en bas de l'immeuble, il est souvent pris et tu n'as pas de garantie de venir. Donc, tu vas appeler 10 mecs et tu vas te retrouver sans rien. Donc, à partir de là, forcément, les centres sont arrivés et les gens sont allés là-dessus parce qu'ils sont certains de jouer.
Alors, et qui joue au Urban aujourd'hui ? C'est quoi la clientèle plutôt ? Il y a de tout ?
Tout le monde ?
Ouais, tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Quasiment. Après, voilà, il y a cette barrière un peu. Bien sûr, c'est payant. Donc là, il faut pouvoir.
Mais là aussi, les prix sont différents selon les plages horaires, etc.
Exactement. Il y a des tarifs d'heure creuse, d'heure pleine. Et voilà.
Toi, tu dis tout le monde, Kevin.
Bah, ouais, tout le monde. Je pense que. La preuve, ouais. Toi, enfin, il y en a qui essaient de jouer, et puis il y en a qui jouent. Mais c'est vrai que en tout cas, je pense que au Five, à l'Urban, c'est vraiment un accès pour tous. Tu vois des enfants. Moi, l'équipe de mon fils, en hiver, quand il y a de la neige, et bah, ils essayent de réserver un terrain. Mais ça peut être les vétérans ou juste une bande de potes, une entreprise. Et c'est pour ça que forcément, le développement de cette pratique-là, elle a été exceptionnelle. Parce que nous, on avait tous envie, en jeune, d'aller jouer en futsal. Mais il n'y avait pas de créneau, ou alors le gymnase n'était pas en état, où on n'avait pas l'assurance, la licence. On sait que quand même, quand tu veux aller jouer avec tes potes, si tu sautes pas la grille, c'est compliqué, parce que sinon, voilà, c'est la responsabilité de qui, et attention, parce que s'il y a une blessure, le gardien veut pas, etc. Donc, alors on a tous fait, hein, de sauter la barrière, mais je le conseille pas. Vaut mieux réserver un five, trouver un partenariat, parce que c'est quand même mieux encadré, et y a cette pratique-là qui s'est développée, et honnêtement, c'est vraiment super.
Jess, toi, tu dirais qu'il y a moins de City Stade aujourd'hui au pied des immeubles qu'avant, ou alors est-ce qu'ils sont délabrés, ou les deux d'ailleurs ?
Je pense qu'il y en a autant. J'ai l'impression, par contre, qu'ils sont laissés à l'abandon. C'est ce que tu dis tout à l'heure. C'est que il y a certains moments où on sent qu'il y a une volonté politique de, bah, justement de mettre l'accent sur la pratique sportive. Je parle des quartiers parce que c'est le sujet que je maîtrise le mieux. Et ça, oui, voilà, tu disais 98, aujourd'hui pour les JO, etc. Mais il faut que entre ces périodes-là, voilà, ce soit entretenu. Il faut que, voilà, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de City, mais qui sont laissés à l'abandon.
Ouais, Kevin.
Bah, il faut en plus qu'on fasse tous attention, que ce soit les mairies, la Fédération française, les clubs de foot aussi, qui pourraient peut-être, hein, peut-être sûrement qu'ils le font. En tout cas, moi, je suis pas au courant de tout. Parce qu'aujourd'hui, tu as parlé de 1998, de 2018, on a une génération de footballeurs, pour la grande majorité, qui s'est formée dans la rue aussi. Alors bien sûr, il y a des centres de formation, il y a des structures professionnelles, mais ils viennent quand même tous à la base du football amateur, et avant, ils viennent de la cour d'école. Ils viennent du foot en bas de la cité, au quartier, peu importe, dans un coin de campagne. Et c'est ce football-là qui forge. Aujourd'hui, la région parisienne, c'est le deuxième foyer et le, en termes de bassin de population, de production de footballeurs professionnels dans le monde, après la ville de Sao Paulo au Brésil. Mais ce n'est pas pour rien. Et si la municipalité, la fédération, les clubs ne se rendent pas compte qu'il faut continuer d'entretenir ça, si on veut garder des joueurs dribbleurs, si on veut garder des joueurs de rue et des joueurs qui développent aussi d'autres choses, parce que quand tu es sur le béton, et on en reviendra encore une fois après, quand tu es sur le béton, bah, tu peux pas tacler. Donc il faut défendre autrement. Quand tu es sur le béton, bah, il n'y a pas beaucoup de place. Donc tu dois apprendre à dribbler, tu dois apprendre à regarder l'espace. Nous, on ne joue pas avec des chasubles, par exemple. Tu joues dans la rue, tu ne joues pas avec des chasubles comme au Five. Mais tu sais avec qui t'es. Tu te rends compte la situation dans l'espace du joueur, comment il apprend, comment il évolue. Et ça, si tu ne fais pas attention à ça, tu te dis, oh, ça va, le terrain est là-bas, c'est pas grave. Le club du coin, il est en DH, il est en nationaux. Mais peut-être que dans 10 ans, le club du coin, il sera plus en nationaux parce que tu n'as pas fait attention à ton City Stade ou à ton mini-terrain.
Je te vois dire oui de la tête également, Louis. C'est vrai que c'est un peu ce qu'on trouve dans l'urban aussi, ça. Ça, c'est des codes que vous essayez de développer, de cultiver, le côté joueur un peu de rue, finalement, de street foot.
Bah, forcément, l'urban, c'est un dérivé du street street foot parce qu'on est sur un effectif réduit, on est sur un petit terrain, on est 55. En plus, tu peux jouer avec les murs. Donc, on le cultive, en tout cas, on l'empêche pas. Nous, on est un peu formateur aussi, on coach les enfants et on va pas se dire tiens, il dribble, il faut qu'il lâche la balle. Non, on va le laisser faire, on va peut-être apprendre aux autres à défendre avant et puis après, on lui apprendra. Il y a des zones du terrain où on peut éliminer, il y a des moments où on peut éliminer, il y a des moments où il faut lâcher la balle et des moments où là tu peux passer au dribble.
Kevin disait il y a quelques instants, c'est pour tout le monde le foot et le street foot aussi. Jess, est-ce qu'il y a une féminisation aussi qui s'opère plus grande ces derniers temps?
Oui, en tout cas moi je l'ai remarqué. J'ai eu la chance de bosser sur le documentaire de Lisa Malandro sur Footeuse. On se rend compte que c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui prend de plus en plus de place. À côté de ça, le football féminin, street surtout, c'est vraiment un monde assez fermé. On voit clairement l'évolution. Je pense qu'il y a pas mal de filles qui viennent prendre des créneaux.
Voilà, justement, tu corrobores.
Oui, il y a beaucoup de plus en plus de filles. Il y a des associations comme par exemple Manita qui œuvrent pour faire découvrir le football aux femmes qui sont des fois exclues un peu, ne serait-ce que dans les entreprises où les gars s'en vont vers le foot, mais ils ne proposent pas aux femmes. Donc, là, maintenant, on essaye de leur faire découvrir. Nous, on essaye aussi de casser la barrière du prix en faisant des tarifs préférentiels à ce genre d'assaut. Que s'il y a une réticence, au moins que le prix soit pas aussi un argument de plus et un frein à ce qu'elles viennent. Mais il y en a de plus en plus, dans les académies, il y a de plus en plus de filles. Après, moi, je dis toujours, c'est encore pas assez, il y a encore de la place et il devrait y en avoir plus. Et ça vient des parents qui ont une conception du football qui est masculine. Alors que c'est le football, c'est un des meilleurs sports du monde à jouer.
Ensemble.
Ouais, c'est ensemble.
Corentin, on rappelle, avec Sport dans la Ville, vous œuvrez à l'insertion des jeunes à travers le sport et le foot notamment. Justement, comment le foot aide à ça? Qu'est-ce qu'il apporte de plus, je dirais, ou différent pour aider les jeunes à s'insérer ou se réinsérer socialement?
Bah, j'élargirai la réponse en disant que le sport est un super vecteur pour accompagner les jeunes sur le chemin de l'insertion sociale et professionnelle, parce qu'il permet de travailler sans trop s'en rendre compte, de manière ludique, plein de valeurs. Et ça, c'est possible avec différents sports. Le foot, les sports collectifs, d'une manière générale, vont permettre de travailler l'esprit d'équipe, la solidarité, l'entraide, etc. Tu peux aussi te servir d'autres sports individuels. Tu peux te servir de la boxe, par exemple, qui va beaucoup permettre de travailler sur le dépassement de soi, sur le fait d'aller plus loin, de repousser ses limites. Et en fait, le sport, de manière générale, est un super outil pour travailler ces questions-là et aussi travailler le développement de la confiance en soi, ce qui est super important, nous, chez les jeunes qu'on accompagne. Le sport permet de faire tout ça. Je te prends un exemple tout bête, la course à pied. Demain, tu te mets à courir, ça va être douloureux, ça va être compliqué, etc. Au bout de 15 jours, tu vas courir plus longtemps, tu vas courir plus vite, tu vas être moins essoufflé. Et ça, c'est autant de progrès que tu fais qui sont facilement mesurables. Tu t'en rends compte, tu progresses. Et ça, c'est super important pour la confiance en soi. Et nous, c'est un outil super important dans la confiance. Des jeunes.
Kevin, tu dirais que toi, quand tu étais gamin, ça t'a aidé aussi à t'éduquer finalement le foot?
Bien sûr, et les valeurs que te donne un sport collectif comme le foot, forcément, tu joues à 11 contre 11, tu peux pas réussir tout seul. Même si je te donne une petite anecdote, au collège, je faisais moi contre toute ma classe, je gagnais pas beaucoup, j'aimais bien tenter le coup. Mais blague à part, c'est vrai que quand même un jeune joueur, ça lui apprend le collectif, ça lui apprend le fait, voilà, de travailler ensemble et surtout de vivre ensemble. Parce que le foot, c'est pas que... alors aujourd'hui, ça l'est de moins en moins, mais le foot, c'est pas... T'arrives, t'as entraînement à 18h, t'arrives à 18h et tu rentres chez toi à 20h. Non, le foot, c'est t'arrives à 19h30, 19h35, tu rigoles, ça rigole dans le vestiaire, ensuite sur le terrain, là, c'est le moment du travail, donc entre guillemets, même s'il y a toujours du plaisir, moi, je jouais quand même à des niveaux, on était là pour gagner les matchs, on était là pour essayer d'avoir quand même un minimum de performance, mais ensuite, après, il y a le déplacement, le voyage, si tu gagnes, bah voilà, tout le monde va ensemble, je sais pas, à la pizza du coin... même si faut pas manger que des pizzas hein, pour les jeunes qui nous écoutent, mais en tout cas voilà, c'est vraiment le vivre ensemble qui est important, le respect de l'autorité, le respect de l'arbitre aussi, même si quand on est dans la compétition forcément on va pas se le cacher, c'est difficile pour tout le monde, mais ça t'inculque quand même des valeurs sociales qui sont indéniables, et c'est un éducateur aujourd'hui, c'est pas un entraîneur. Il y a des entraîneurs pour le haut niveau, mais pour les enfants, c'est des éducateurs. Et je pense que ce mot, il a jamais aussi bien porté son nom, parce que t'es là, on se rappelle tous de nos éducateurs quasiment, ou en tout cas de notre premier éducateur, de notre second éducateur. On s'en rappelle, parce que voilà, c'est pas comme un deuxième papa, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a participé à ton éducation, en tout cas quand il a été bon, et ça, c'est vraiment important.
Pour prolonger cette question de l'éducation, dans Ballon sur Bitume, Jess, il y a une belle citation de Ferhat Sissek, hein, qui est éducateur et entraîneur de foot. Il dit « Le street foot, c'est la liberté ». Mais comment on fait alors finalement pour fixer des règles aux jeunes dans cette liberté, là où il n'y a pas de règles par définition ?
Je pense que c'est de l'autorégulation. Ils jouent en bonne intelligence, c'est-à-dire qu'ils savent que s'ils mettent un taquet, ils vont en recevoir un et la prochaine fois, ils feront attention. Et au-delà de ça, je pense que tu commences la pratique du foot, en tout cas du street foot, en observant les plus grands. T'es petit, on ne fait pas jouer parce qu'on ne sait pas si tu as le niveau. Et ensuite, quand tu grandis, bah, tu as vu ce que les aînés ont fait avant. Et du coup, tu es dans l'émulation. Alors bien sûr, ça dépend des zones. Je sais qu'on avait fait une série de reportages dans toute l'île de France. Et c'est marrant d'observer que les mentalités sont hyper différentes d'une région à une autre. C'est-à-dire que dans le 95, ça va être un peu plus dans le chambrage. Dans le 93, un peu plus agressif, mais tout autant dans le chambrage. Enfin, voilà. Et à côté, enfin, voilà. Il faut que tu arrives à... En fait, il faut savoir lire en fait, la personne que tu as en face de toi pour savoir quelles sont ses limites. Et à partir de là, les gens ils sont assez intelligents pour faire la part des choses.
Juste, toujours dans ce parallèle avec le urban soccer, Louis, là, c'est pareil. Vous avez fixé des règles, mais au final, chacun fait ce qu'il veut.
Chacun fait ce qu'il veut. Tu viens, tu joues avec tes règles. Nous, on a des championnats où il y a des règles, mais globalement, les gars, moi, j'ai vu des... Il y en a, ils jouent avec les filets. Il y en a, ils jouent avec les tacles. Il y en a, ils rentrent dans la surface. D'autres, la surface, elle est interdite. Chacun vient et fait en fonction de son feeling. Il y en a, ils font des matchs où ils comptent les points indéfiniment. D'autres, ils font des sets. C'est à partir de 6, ils disent, moi, ça fait 1-0. Et après, ils recommencent.
Ah oui, carrément.
Ouais, voilà, c'est chacun ses règles. Tu viens, chacun son maillot. Tout le monde vient avec le maillot de son équipe dont il a envie. Alors qu'en club, tu prends un peu le truc du club. Et voilà, chacun fait comme il veut. Hein.
Là, tu parlais d'un truc qui est très important, c'est l'autorégulation et donc l'auto-arbitrage. Tout à l'heure, je parlais du fait de jouer sans chasuble dans la rue, etc. Tu joues sans arbitre aussi. Mais au final, ça se passe toujours quand même assez bien. Il peut y avoir une friction ou deux, mais comme tu dis, tu sais que si t'as chambré derrière, si t'en prends une, faut pas venir pleurer. C'est la street. Donc en fait, si tu veux parler, faut assumer. Et si t'assumes pas, faut pas pleurer. Et donc, ça, c'est quelque chose quand même, quand je parlais d'école de la vie. Et pourtant, là, il n'y a pas d'éducateur, il n'y a pas d'arbitre, mais il y a un grand, il y a toujours un qui a plus d'expérience, il y a toujours un plus costaud. Donc, tu sais ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Et ça, c'est vraiment ce que je retiendrai du foot de rue.
Juste, je sais que tu as bossé le sujet également, Kevin, et ça vous concerne tous également, mais comment les marques comme Nike, hein, puisqu'on est à la House of Innovation, elles vous aident dans vos actions? Je sais qu'ils font pas mal de choses, notamment Nike. Hein.
Ouais, bah, j'ai échangé avec les gens de Nike et vraiment, j'étais agréablement surpris de voir tout ce qu'ils mettent en place, que ce soit avec Sport dans la Ville ou avec les autres associations qu'on va recevoir en France, mais aussi dans le monde entier. Pour te dire la vérité, je leur ai même demandé pourquoi il n'y avait pas plus de communication. Après, c'est leur façon de faire et je trouve ça vraiment bien parce qu'en fait, ils travaillent beaucoup pour les jeunes, justement, pour développer le sport dans la ville, le sport pour tous, l'accessibilité. Ils ont touché plus de 17 millions d'enfants dans le monde depuis qu'ils ont commencé ces actions. Aujourd'hui, ils ont une action qui s'appelle Made to Play, où ils regroupent un peu toutes ces opportunités pour donner accès à, accès aux jeunes, peu importe leur quartier, peu importe leurs origines, pour que tout le monde, peu importe leur sexe aussi, peu importe leur préférence, que tout le monde ait accès au sport, au football, au basket en particulier, mais il y a aussi du breakdance. Je sais qu'il y a pas mal d'activités comme ça qui sont développées par Nike en tout cas, et honnêtement je trouve ça très bien parce que les marques, je disais tout à l'heure les clubs, mais les marques, les fédérations, il faut que tout le monde, voilà, soit main dans la main pour arriver à développer ça.
Corentin, c'est quoi le soutien concret que vous avez de la part des marques?
Oui, tout à fait. Une marque comme Nike nous soutient à différents niveaux, à différentes échelles. Tout d'abord, ils équipent tous nos éducateurs sportifs. Aujourd'hui, on a 150 éducateurs sportifs sur le territoire national qui encadrent hebdomadairement plus de 8000 jeunes. Ils ont des survêtes aux couleurs de l'association, celui que je porte aujourd'hui. Ça nous est possible grâce à Nike. Ensuite, Nike soutient financièrement nos actions, en particulier les actions qu'on met en place à destination des jeunes filles au sein de notre programme Elle dans la ville. Donc, toutes les actions de promotion de la pratique sportive à destination des jeunes filles, elles nous sont permises grâce à Nike notamment. Et enfin, Nike nous permet de mettre en place des temps forts, de réunir des artistes Nike sur des journées plutôt événementielles, de découverte de nouveaux sports ou même autour du foot et du basket. Et ça, c'est une notion qui nous est chère chez Sport dans la Ville, c'est la force du souvenir heureux. Nous, ça nous permet de mettre des gamins sur le terrain qui vont jouer avec des sportifs qu'ils voient à la télé. Et ça, c'est un truc de fou. Et c'est un souvenir qu'ils vont garder pour eux toute leur vie et qui va leur permettre d'avoir envie de continuer à faire du sport plus tard.
C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, Jess, mais les marques finalement et les ambassadeurs, les stars de ces marques qui portent ces marques-là, ils ont une vraie influence finalement également sur les jeunes.
Totalement, totalement. Et on se rend compte aujourd'hui, à chaque fois qu'on regarde dans les personnages préférés des Français, principalement des sportifs. Il suffit de regarder l'influence, en tout cas l'aura qu'a un joueur comme Kylian Mbappé.
Ouais, moi je voulais revenir, je viens de faire un signe à Nico parce que tu viens de parler de sport heureux ou de
souvenirs heureux.
Voilà, de souvenirs heureux, mais c'est ça aussi. On n'a pas beaucoup parlé de la notion de plaisir, mais que ce soit dans le club, que ce soit dans la rue, à l'urbane ou dans n'importe quel contexte, quand tu es là, quand tu fais du sport, il y a quand même cette notion de plaisir avec ces hormones que tu produis en faisant du sport, c'est les hormones qui te donnent du plaisir ou de la satisfaction. Donc forcément, quand tu veux faire du sport, tu veux prendre du plaisir, tu veux sourire, tu veux être heureux. Et en général, quand même, tu l'es. Bon, à part quand tu perds contre nous, mais sinon, ça va.
Juste Louis, parce que toi tu as la casquette du ambassadeur de Urban, c'est vrai. Tu bosses pour Urban aussi, mais tu es entraîneur éducateur. C'est quoi les valeurs que vous essayez d'inculquer aux gamins qui viennent à la PSG Academy, par exemple?
Comme Kevin l'a dit, nous, la première valeur, c'est le plaisir. C'est leur faire ressentir des émotions. Et ça va être la deuxième valeur qu'on va mettre en avant, c'est le travail. C'est-à-dire que si tu travailles pas, tu progresses pas. Et si tu progresses pas, tu peux pas prendre de plaisir. Souvent, je prends l'exemple du tennis. Si tu joues au tennis, mais tu rates la balle à chaque fois, il y a zéro plaisir. Donc, il faut s'entraîner, il faut travailler pour pouvoir prendre de plus en plus de plaisir. Après, tu as les valeurs universelles, bien sûr, du football et du sport en général, comme le fair play, le respect. Et enfin, la dernière chose que je dirais, c'est qu'on met l'accent dessus, c'est les différences. Nous, on accepte les enfants, quel que soit leur niveau, qu'ils soient bons ou pas bons, qu'est-ce que soit leur sexe, enfin voilà, et leurs origines. Donc, ce qui est important, c'est accepter la différence des autres et s'amuser ensemble, progresser ensemble. Et on a quelque chose à tirer de tout le monde.
Alors, on évoquait les joueurs qui sont les stars finalement et qui portent ces marques-là. Dans Ballon sur Bitume, il y en a plusieurs qui sont ici issus du street foot. Il y a Mahrez, Benatia, Brahimi, Yassine Brahimi notamment. En quoi ces modèles ils peuvent aider les jeunes, Jess? Pourquoi avoir choisi d'ailleurs de les faire parler?
Alors déjà, je vais revenir sur une anecdote de Ballon sur Bitume. C'est que tu as cité ces prénoms-là. On a eu aussi Ousmane Dembélé.
Oui.
Et à un moment donné, c'est poser la question, est-ce qu'on fait Ousmane ou Kylian Mbappé? À cette époque-là, il était encore, il jouait pas avec les pros, avec Monaco. Et je me suis dit, Ousmane, je sais un peu plus qui il est, je connais un peu plus son background, etc. Et depuis, mon producteur me rend fou avec parce qu'il me dit, on a loupé Mbappé. Et je lui dis, ouais, on a quand même eu Ousmane. Mais pour en revenir à ce que tu demandais. Ferhat, l'éducateur dont tu parlais tout à l'heure, il le dit très très bien. Le rêve, ça n'a pas de prix.
Le rêve est gratuit, mais la réalité a un prix. Ouais.
C'est ça. Et rêver, c'est hyper important pour ces jeunes, parce que si on leur enlève ça, ils ont plus grand chose. Aujourd'hui, on sait que le football, c'est un accélérateur social, économique pour pas mal de jeunes, mais au-delà des jeunes, il y a aussi leur famille qui compte sur eux et des fois qui misent quasiment tout sur eux. Et il y en a qui réussissent totalement. Je pense à Eduardo Camavinga. Ses parents sont venus du Congo. Ils sont arrivés en France. Ça a été hyper dur et ils lui ont dit très rapidement, t'as un don et c'est grâce à ce don-là que ça va nous permettre, nous, de nous en sortir. Et voilà, ces enfants le rendent bien.
Tu veux dire qu'il y a aussi un risque finalement derrière ça, c'est qu'ils se bercent d'illusions, tous ces gamins, non ?
Bah, ils peuvent se bercer d'illusions. Après, moi, ce que je dis à chaque fois, c'est qu'il faut après qu'ils soient bien entourés mentalement, mais aussi avoir une cellule qui leur fait garder les pieds sur terre. Tous ces enfants, voilà, ils ont qu'un objectif, c'est de pouvoir émuler des joueurs comme Kylian Mbappé, Kamavinga et j'en passe. Mais on peut pas leur enlever ce rêve-là. Ça serait atroce.
Ouais, j'imagine le Urban à la PSG Academy, tu dois avoir des gamins qui veulent être le futur Mbappé aussi. Comment en tant qu'éducateur, on fait pour gérer ça ?
On leur dit que ça va être, c'est pas simple. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de chance, et bien sûr il y a la donnée de talent. Donc, mais voilà, il faut avoir ces trois choses-là. Et même avec ces trois choses-là, c'est pas évident. Ouais, c'est tout un concours de circonstances qui fait que il faut être bien entouré, il faut être poussé, il faut être prêt aussi mentalement. C'est vraiment pas simple. Donc on leur explique petit à petit, et on leur met toujours en face l'école, une priorité. Il faut continuer de travailler à l'école. Toujours, toujours, toujours.
Corentin, comment on fait comprendre à des jeunes qu'il faut s'insérer par le foot, mais pas pour le foot ?
Bah, je vais rebondir sur ce qui a été dit. Pour moi, il faut, si le rêve est là, il ne faut pas le briser dans un premier temps. Il faut dire aux jeunes qu'il va falloir bosser extrêmement dur, que s'il y a 1000 gamins qui rêvent de percer, il y en a peut-être un qui va percer. Et pour les 999 restants, la vie, elle continue. Il va falloir aller à l'école, il va falloir trouver un job. Et dans ce cas-là, le sport doit rester, et le foot en particulier, doit rester un moyen de prendre du plaisir au quotidien. Comme Kevin le disait tout à l'heure, si tu perces pas, ça t'empêche pas de revenir jouer tous les jours avec tes potes et prendre du plaisir en jouant. Et moi, j'aurais une anecdote qui est que tu parlais de Kylian Mbappé tout à l'heure. Nous, on travaille à Bondy. On a un terrain de proximité dans le quartier de Bondy Nord qu'on anime au quotidien. Avec la Coupe du Monde 2018 et l'avènement de la superstar internationale qui est aujourd'hui Kylian Mbappé, le club de l'AS Bondy croule sous les sollicitations. C'est hyper, hyper dur pour les jeunes d'accéder à l'équipe, même B ou C, et de pouvoir exercer en club. Et en fait, comme nous, derrière, on a une offre gratuite, non compétitive, c'est autant de gamins qu'on va récupérer sur nos séances à nous, dans une approche différente. Et des fois, quand on les récupère, c'est des gamins qui ont été dégoûtés du processus de sélection, des impératifs de compétition dès le plus jeune âge, dans ces clubs-là qui sont faits pour fabriquer des stars que nous, on va récupérer et avec lesquels on va recommencer à bosser la notion de plaisir dès le début, d'entraide, de jeu avec les copains et revenir un peu à ce qu'est l'essence du foot qui fait avec tes potes de jouer.
Toi, tu passes tes diplômes d'entraîneur, Kevin, t'es éducateur aussi. C'est important, hein, ce que dit Corentin aussi, de ne pas dégoûter finalement les jeunes en étant direct dans l'esprit compète.
Mais écoute, s'il y a des jeunes joueurs qui écoutent le podcast, et je l'espère vivement, il faut quand même savoir qu'il n'y a que entre 2 et 5% des joueurs qui sont en centre de formation qui finissent footballeurs professionnels. Par contre, on l'a dit, le football, c'est l'école de la vie, ça apprend plein de valeurs. Et quand on dit que l'école, c'est aussi important, aujourd'hui, tu es quand même dans un centre de formation ou pas, ça te permet quand même d'avoir une éducation avec des classes réduites, etc. Et même ceux qui ne sont pas en centre de formation, qui rêvent comme moi, je n'ai pas connu les centres de formation, mais j'ai toujours eu à l'esprit que j'avais envie quand même de vivre du football. Alors en l'occurrence, j'ai réussi à le faire, mais le truc, c'est que j'étais quand même prêt. Il faut que les jeunes et que leurs familles se rendent compte que peu importe, même celui qui arrive au plus haut niveau, il existe la blessure, il existe plein d'impondérables qui vont faire que peut-être qu'un jour ta carrière elle s'arrêtera avant que tu l'aies prévu. Et ça, il faut être prêt à ça. Aujourd'hui, après, dans le football, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, que ce soit dans les nouvelles formations d'entraîneurs pour accompagner les entraîneurs, accompagner les joueurs sur la préparation mentale, aussi sur toutes ces choses-là, pour pouvoir leur permettre de comprendre que le sport de haut niveau, c'est un travail, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'ils ne vont pas maîtriser. Il y a des variances que tu ne pourras, contre quoi tu ne pourras rien faire. Mais cette phrase de Ferrat, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle et si tu peux me la redonner exactement.
Le rêve est gratuit mais la réalité a un prix.
Voilà, la réalité elle a un prix. Parce que tu peux être talentueux, mais si tu travailles pas, si derrière t'as pas l'éducation qui fait que tu vas pouvoir te tenir dans un vestiaire, si t'es pas capable de parler une langue étrangère, eh ben, y aura plein de petits paramètres qui font que ouais, tu sauras faire un centre, un crochet ou une frappe au but, mais est-ce que tu vas réussir à te tenir dans un groupe, c'est autre chose. Et donc cette phrase, je vais la garder. Te dire la vérité, je vais la mettre dans mon dossier et je vais le citer, mais vraiment c'est quelque chose qui est exceptionnel.
Est-ce que du coup en tant qu'éducateur et potentiellement futur coach, moi ce qui m'intéresse aussi c'est la relation des parents sur les terrains de foot. Moi je sais que j'ai remarqué que les parents sont de plus en plus hystériques, leur enfant c'est plus leur enfant, c'est comme s'ils transposaient leur
fantasme
et leur rêve sur leur enfant et au final ça dégoûte l'enfant même de ce sport. Il joue plus pour lui mais il joue pour ses parents.
Après, malheureusement, ça, c'est une question d'éducation. C'est-à-dire que moi, je pense que, et pour l'avoir vécu, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, mon fils, il joue au foot. Mais personnellement, qu'il soit footballeur, c'est vraiment pas un objectif ni pour moi ni pour lui. Après, s'il a envie de le faire et s'il a le niveau, je l'accompagnerai. Mais j'ai pas envie de ça parce qu'aujourd'hui, je trouve que beaucoup trop jeune, on en vient à faire des détections, de la priorisation, tu vois, sur tous les terrains, des parents qui sont avec leurs enfants pour faire des circuits techniques, des parcours presque de performance à l'âge de 6, 7, 8, 9 ans. Mais je trouve que l'enfant, il est trop jeune. Il est trop jeune. Alors, le mettre dans un club qui a un bon niveau, etc., il n'y a aucun problème. Mais on pourra rien faire. Je sais qu'il y a des clubs, par exemple, qui interdisent aux parents d'être là à l'entraînement, par exemple. Après, le jour du match, c'est plus compliqué. Mais je pense qu'il y a pas mal de pédagogie à faire dans les clubs. Et nous, on le fait dans notre club pour recevoir les parents et leur dire « Attention, le week-end, ça reste OK de la compétition. Mais il faut quand même arriver à garder quand même un certain bon sens qui fait que le gars, il est quand même là où le petit ou la petite, elles sont quand même là où ils sont là pour prendre du plaisir avant tout. » Et que le résultat, on le verra peut-être en adulte, mais qu'aujourd'hui, le principal, et c'est ce que je dis à mes joueurs, moi, je ne sais pas si je vais monter avec mon équipe. Je ne sais pas si je vais finir premier, si je vais gagner tous les matchs. Mais si à la fin de la saison, mes joueurs, ils ont progressé, mes joueurs, ils ont passé une belle année ensemble et ils ont ce plaisir d'avoir passé une année avec moi et une année entre eux, mais déjà, on aura tout gagné.
Ça te parle, Louis, ce que dit Jess également? Est-ce que toi aussi, je peux Urban, il y a une pression des parents? Ou alors, au contraire, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de championnat de compète, vous êtes un peu préservé de ça? Il y a vraiment la notion de plaisir qui est cultivée?
On a mis un petit peu de compétition, parce qu'il y a une demande des parents. Bah ouais, je sais.
Mais voilà, c'était une demande des parents?
Des parents, des enfants aussi. Faut pas, les enfants ont envie. Mais
je te disais si tu avais aussi la pression des parents,
comme bien sûr, les parents, Jess, ils sont omniprésents. En plus, nous, on a des terrains qui sont tout petits. Donc ça veut dire que quand ils sont proches du terrain, ils sont à 2 mètres. Donc ils arrivent à les influencer, ne serait-ce que même sans rien dire. Donc le regard, ils cherchent toujours l'approbation des parents, toujours le jugement des parents. Donc c'est pas facile. Après, nous, on met des règles en place. Par exemple, on dit sur ces petits championnats, on dit 3 fautes, c'est pénalty. Et même un parent qui parle, c'est pénalty, c'est faute.
Ah ouais?
Oui.
Ah, ça, c'est bien, ça.
Mais après, on essaye de l'expliquer aussi aux parents, de dire... En amont du championnat, chaque équipe se retrouve avec les parents et leur explique. Voilà, des fois, le coach, il va laisser faire l'enfant. Il va lui laisser faire l'erreur parce que c'est par l'erreur qu'il va apprendre. Vous allez... des fois, on est tenté de lui dire non, pas là, à droite ou à gauche. Mais il faut le laisser et des fois, il va faire des erreurs. Des fois, on va l'orienter. Des fois, voilà, il faut le...
Sinon, mettez des octogones à côté puis les parents, ils s'expliquent. Il y a l'idée, il y a un truc à faire là-dessus, je pense. Il y a un concept. Il y a peut-être un truc à faire là-dessus.
Il y a juste une phrase de Régis Lebris qu'on a eu dans l'after sur RMC il y a quelques semaines. Et j'ai noté sa phrase parce que tu parlais d'erreur. Et lui, il dit placer l'erreur comme élément constitutif de son projet de jeu. Mais ça, il faut que les parents le comprennent. Et il faut que les éducateurs aussi, parce qu'attention, il n'y a pas que les parents, il y a aussi des fois des éducateurs qui sont, comme on dit, dans la championnite et qui en oublient vraiment les fondamentaux de faire progresser leur équipe. Mais vraiment, l'erreur, c'est forcément dans un sport collectif, même que ce soit un sport individuel comme le tennis, forcément, tu vas faire des erreurs. Si celui qui ne fait pas d'erreur, honnêtement, je n'en connais pas.
Juste un mot également, parce qu'on parle de l'éducation également des jeunes, des parents aussi. Il y a souvent la thématique des écrans qui revient, alors que ce soit les jeux vidéo, le digital. Là, on est dans la house innovation, on est hyper connecté, c'est très joli. Comment vous pensez que, finalement, ce côté connecté, le foot des écrans peut aider à revenir vers le réel, Corentin?
Je pense que ça passe encore une fois par le travail de sensibilisation que peut faire l'éducateur au quotidien, lui qu'a les enfants, les jeunes sur les terrains. C'est ce que disait Kevin tout à l'heure, l'éducateur c'est même parfois même un deuxième papa. Nous on intervient dans les quartiers prioritaires politiques de la ville qui sont souvent des quartiers où les parents ont un niveau de vie modeste, où les parents ils vont bosser sur des horaires un peu décalés, que les enfants ils vont pas forcément beaucoup voir au quotidien. Et en fait le rôle de l'éducateur il est fondamental puisque c'est lui qui va avoir les enfants sur le terrain et le mercredi et parfois le vendredi et le samedi, et c'est lui le premier relais de ce type de message aussi, comme le fait de sensibiliser à faire attention à pas passer trop de temps sur les écrans. Donc moi j'insisterai vraiment sur le rôle de l'éducateur qu'a les jeunes au quotidien là-dessus.
Jess, comment on peut faire pour que le virtuel soit au service du réel alors?
Je pense par exemple aux jeux vidéo, si on parle de FIFA ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que les jeunes qui sont vraiment fans de foot et de consoles, ils vont vouloir reproduire ce qu'ils ont fait sur la console. dehors. Donc je trouve que c'est un écosystème qui fonctionne bien. Après, bien sûr, comme tout, il y a des il faut pas aller dans l'excès.
Louis, toi, pareil, tu dirais qu'il y a une complémentarité ou il y a une vraie concurrence finalement entre les deux ?
Non, je pense qu'il y a une complémentarité, comme le dit Jess. Nous, on a tenté de lancer des stages un peu e-sport, notamment sur FIFA, avec le matin, tu joues à la console, tu as un coach qui un peu te t'aide à les gestes techniques, et l'après-midi, tu fais du sport. Et ben, ça n'a pas fonctionné. Plusieurs fois, on a essayé de lancer, on a fait des séances découvertes, il y avait un petit peu de retour, mais pas tellement. On n'a jamais réussi à lancer quelque chose. Je pense que les parents sont pas prêts encore à ça, ils sont archi vigilants avec la notion d'écran. Je pense que quand les enfants ont 5, 6, 7 ans, les parents ils sont très orientés sur le développement moteur. Et on l'a vu pendant le confinement aussi, les gens ils voulaient plus être chez eux, ils voulaient plus être dedans pourtant, et c'était l'occasion rêvée. Mais ils voulaient être dehors, ils voulaient que leurs enfants ils jouent. Il n'y a pas trop de concurrence, je trouve, c'est plutôt complémentaire.
Kevin, je vais parler au papa, tu fais comment avec tes gosses ?
Écoute, moi de toute façon, si tu veux savoir, c'est la PlayStation ou les écrans, c'est mercredi, samedi et dimanche, et c'est une heure par jour. Donc pour le coup, c'est assez strict. Mais voilà, j'ai envie que mes enfants ils puissent aller à l'extérieur, aller faire du sport, faire autre chose. Il y a plein de choses à faire. Et même si moi j'ai beaucoup joué aux écrans, je pense qu'ils auront largement le temps quand ils seront adultes d'avoir les écrans. Mais il y a quand même des choses qui se mettent en place avec les nouvelles technologies, avec le Web3. Alors là, c'est quelque chose qui est un peu technique, mais tu vois, je sais qu'il y a des applications aujourd'hui qui te font, par exemple, acheter des baskets en NFT. Mais alors on peut dire ah oui, mais c'est de la spéculation, pas spéculation. Ça, ce sera chacun son avis. Mais avec cette application, si tu vas courir dehors, ça te permet de gagner des points qui te permettent d'acheter d'autres baskets, etc. Et donc je pense que forcément les marques, je sais que Nike et d'autres marques s'y mettent aussi pour le monde virtuel, pour le Web3, il va y avoir forcément une corrélation entre le virtuel et le réel, parce que le virtuel, pour le virtuel, ça ne sert pas à grand chose. Aujourd'hui, quand tu es sur les réseaux sociaux, c'est pour rencontrer des gens que tu vas voir ensuite dans la vie réelle. En tout cas, j'espère. Donc, je pense aussi que le sport va s'y mettre. Le sport est déjà en train de s'y mettre, mais ça va se développer de plus en plus.
Et juste pour finir, pour revenir au terrain, Jess, tout à l'heure, on l'avait touché du doigt. Hein, le profil, on va dire, du joueur de foot de rue, de street foot, il apporte quoi de plus, finalement, face au football conventionnel ? C'est quoi le joueur de rue ?
De l'insouciance, de la folie. Et c'est quelqu'un qui se pose pas vraiment de questions au moment T de faire son dribble ou quoi. C'est pas forcément un joueur de street foot qui fait des dribbles, etc. C'est aussi pour asseoir son pouvoir, mais son niveau, dire que je suis meilleur que toi. Et le street foot, c'est ça aussi. C'est beaucoup du chambrage, c'est beaucoup de qui est meilleur que qui. Et t'as besoin de le prouver à travers des gestes techniques. Donc après, quand ça se dans le monde professionnel, t'auras toujours des, à chaque fois, je parle de Ben Arfa, de Dembélé, etc. Ces mecs-là, c'est inné. Je pense pas qu'ils réfléchissent à se dire « Ah, je vais faire une virgule là, je vais faire ça là. » C'est inné, c'est instinctif.
Et tu penses que Urban aura un rôle à jouer là-dedans également, Louis ? C'est-à-dire aider finalement à entretenir, à développer le côté un peu technique des joueurs aussi. Je sais pas, est-ce que vous avez le fantasme de vous dire un jour, il y a un grand joueur, un footballeur professionnel, il est passé chez nous ?
Oui, bien sûr, on en rêve, bien sûr. Après, je pense que c'est plus dans la rue où c'est là qu'on répète, les gestes, on répète des actions, on répète des entraînements et où on se confronte aux autres, aux plus grands souvent. C'est toujours les plus grands qui nous forment. On essaye de, on est toujours heureux quand on dribble un grand et quand on bat un grand, etc. Mais je pense plus dans la rue qu'à l'urban où on va essayer quand même de les former un peu plus, on va dire.
Ouais, Corentin, t'en penses quoi de ça justement ? Parce que finalement, il y a le côté un peu sportif, c'est-à-dire terrain pur et sociétal qui se mélange un peu derrière cette question aussi.
Ouais, complètement. C'est pour moi le. Si la question elle est celle du lien entre le foot et les quartiers, pour moi le lien il est intrinsèque. Si tu regardes la composition de l'équipe de France avec laquelle on gagne la Coupe du Monde en 2018, la proportion de l'effectif qui vient des quartiers de la région parisienne, il est absolument monstre. Donc pour moi, la question du développement du foot et du développement dans le foot dans les quartiers en France sont intrinsèquement liés, vraiment.
Je te laisse le mot de la fin, Kevin, sur cette vaste thématique que sont le football, les jeunes et la ville.
Non, mais je pense qu'il faut, comme on l'a dit tout au long de ce podcast, il faut que tout le monde ait bien conscience que non seulement tu développes bien sûr les valeurs physiques, les valeurs sociales dans le football. Mais voilà, c'est un enjeu qui est plus global, c'est clairement un enjeu de société. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit pour la nutrition qui se dégrade, que ce soit pour l'environnement, je pense qu'on va avoir besoin de gens qui sont soucieux de leur corps, soucieux de leur bien-être. Et je pense clairement que le football et le sport en général est un vecteur pour se sentir mieux et pour qu'on vive tous mieux ensemble.
Merci Kevin Diaz, qu'on retrouve sur RMC dans l'After Foot notamment. Merci beaucoup Kevin.
Merci à vous.
Jess Adang, réalisateur de Ballon sur Bitume, Tour du Monde, documentaire sur la culture street football. Merci Jess.
Merci à toi.
Tu reviens quand tu veux. Corentin Béchu, responsable territorial chez Sport dans la Ville, association qui accompagne les jeunes pour participer à leur insertion sociale et professionnelle par le sport. Merci beaucoup.
Messieurs.
Et merci beaucoup Louis Thuillet, responsable. Alors non, je vais même dire, maintenant c'est ta nouvelle casquette. Futur DTN de la PSG Academy Urban Soccer. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci à la House of Innovation. Merci beaucoup et à très vite.